Donc, Élodie Fondacci, un dernier conseil de lecture pour notre été. Vous avez choisi Le Grand Écrivain. Alors, c'est pas Jean-François Merle, enfin peut-être, hein, c'est un bon écrivain, mais c'est pas Le Grand Écrivain, qui est chez Arléa.
Tout le monde le sait, c'est...
C'est Guy Boyer qui s'excite.
J'allais dire, tout le monde le sait, c'est la première phrase d'un roman qui compte le plus. Évidemment, il faut qu'elle soit pas trop pédante, pas trop longue, au risque de décourager le lecteur, ou presque plus grave, de décourager le critique. Il faut qu'elle soit surprenante, originale, donnant évidemment envie d'aller plus loin. La première phrase est absolument décisive pour un roman. Tout le monde le sait, et a fortiori notre narrateur, qui justement a plus d'une première phrase dans son sac, et même dans son stock, puisque... Il a collectionné, dans une pochette cartonnée extrêmement bien rangée, des premières phrases qui sont aussi affriolantes que bien troussées. Là où bas blesse, c'est qu'il n'a pas de deuxième phrase, ni même de troisième, ni même de phrase tout court, et que le problème de ce narrateur, charmant garçon un peu velléitaire qui se pique d'écriture, ce n'est pas de commencer, c'est en fait de poursuivre. Donc, il a un énorme problème, d'autant plus que, et ça c'est autrement plus grave, il a réussi l'année passée à convaincre une éditrice tout à fait prestigieuse, une éditrice de renom, grâce à un savant numéro à la fois de charme
d'Esbrouf,
qu'il avait un futur chef-d'œuvre en gestation, et donc elle lui a donné une avance, un avaloir assez confortable, que fort de son succès à venir, il a évidemment dilapidé en diverses agapes alcoolisées, ce qui fait que finalement il n'a plus un sou vaillant.
Et il doit rendre son manuscrit
voilà.
quand même. Hein.
Or, il n'a rien, comme
il
je vous le disais.
Phrase.
Il a une seule phrase, pas l'ombre de la queue d'une suite. Et surtout, il a une énorme dette parce qu'il doit rembourser Dolores, c'est le nom de son éditrice, au rage au désespoir. Il n'a pas d'issue, donc il décide d'en finir parce que, comme vous l'avez compris, il est un petit peu romanesque et mélodramatique. Mais au moment tragique où il décide de mettre fin à ses jours, eh bien, le téléphone sonne.
Et c'est son éditrice.
Voilà, comme vous l'avez lu, vous le savez, son éditrice Dolores qu'il convoque dans son bureau et qui lui propose quelque chose. Est-ce qu'il connaît André Maillancourt ? Alors là, évidemment, les bras lui tombent parce que tout le monde connaît André Maillancourt. C'est comme
le
demander à quelqu'un.
Écrivain.
Voilà, s'il a entendu parler de la Tour Eiffel, André Maillancourt, c'est le plus grand écrivain français vivant, un véritable mythe, une sorte de gloire nationale qui a révolutionné la littérature en publiant, après deux romans convenables, un véritable chef-d'œuvre adoubé dans le monde entier qui s'appelle Le Requiem du Saltimbanque, qui a été publié justement par cette fameuse Dolores et qui avait lu à cette femme le poste très enviable qu'elle occupe dans cette vénérable maison.
Et que veut Dolores, là ?
Alors, Dolores va lui proposer un marché, un contrat juteux. André Maillancourt, en fait, a fait la gloire et la fortune de sa maison d'édition en publiant ses quelques romans, mais malheureusement, il estime qu'il a tout dit, et donc il a renoncé à écrire. Et pour elle, c'est une catastrophe, d'autant plus que la maison d'édition ne va pas très bien. Elle voudrait que Maillancourt publie ses mémoires.
Or,
lui, il n'a aucune envie. Elle sait évidemment que ça sera un succès mondial d'ampleur, voilà, assuré, des millions en vue, mais il refuse. Et donc, elle a décidé qu'il fallait une sorte d'assistant à cet André Maillancourt pour accoucher ce grand homme, et elle a pensé à notre narrateur. Donc, en échange de sa plus totale discrétion, parce que bien sûr, il ne faut pas que l'affaire s'évente, eh bien, elle va annuler sa dette. Donc voilà notre narrateur très excité avec son dictaphone qui va tous les matins se rendre chez le grand écrivain. Et ce qu'il va découvrir, est l'objet
c'est
de
pas
ce
Jojo,
roman
hein.
savoureux.
C'est pas Jojo,
c'est pas Jojo. Mais évidemment, ça parle avec humour des mille et une mesquinerie, coups d'Esbrouf et autres combines du milieu germano-pratin. Et puis ça parle aussi d'inspiration, de succès. C'est léger, c'est sans prétention. C'est assez burlesque et c'est, comme je le disais tout à l'heure, une sorte un peu de thriller dans le milieu littéraire qui, je pense, fait...
Et tout... c'est publié chez Arléa.
Oui, ça sera
donc...
tout à fait utile pour l'été.
Jean-François Merle, le grand écrivain.
Dans Camus, dans La Peste, il y a un personnage de La Peste qui est justement un écrivain, c'est un fonctionnaire, un écrivain raté qui travaille tout le temps sa première phrase, qui s'arrête. Ça parle d'une femme qui monte à cheval en Amazon et il la retourne dans tous les sens. Il la remue, il réécrit sa première phrase.
Et il y a même chose en Murakami que je suis en train de relire en ce moment, où il y a la même affaire. Quelqu'un qui sait écrire une partie d'un roman et pas la suite. Donc c'est amusant, c'est vraiment des thèmes récurrents dans les
livres. Votre première phrase, vous l'avez déjà donnée, donc vous serez privé de première phrase. Tout à l'heure, on va passer à la deuxième. Guy Boyer.
Patrick Poivre d'Arvor,
sur Radio Classique.
Deuxième phrase, donc, pour nous dire que jusqu'au 23 septembre, au musée Cantini de Marseille, se trouve cette collection Burrell.
Oui, qu'on ne connaît pas bien, mais c'est surtout parce qu'en fait, Glasgow est la ville jumelée avec Marseille. Mmh. Donc, ils ont pu travailler ensemble autour de cette collection absolument extraordinaire d'œuvres réalistes et d'œuvres impressionnistes rassemblées par Sir William Burrell. Et alors, l'originalité, et ça, c'est dû au nouveau directeur des musées de Marseille, Xavier Rey, c'est de faire un parallèle dans l'espace du musée entre les collections marseillaises du 19e siècle et cette collection venue spécialement de Glasgow et qui ne voyage jamais. Elle ne voyage que pour une seule raison, c'est que le musée est en travaux jusqu'en 2020.
Le musée de Glasgow est en travaux.
Et donc, ils ont autorisé la venue de ces tableaux. Là où c'est amusant, c'est que ce monsieur Burrell, ce collectionneur 19e, début 20e, avait fait fortune avec le commerce maritime. Et dans la clause de donation de ses tableaux à la ville de Glasgow, il avait mis une chose, que ces tableaux ne devaient jamais voyager, et surtout pas par mer. Donc en fait, ils ont toujours été dans la ville de Glasgow, et on n'a jamais pu les voir ailleurs que là. Et exceptionnellement, parce qu'il y a les travaux et qu'on a pu s'arranger avec
l'Eurostar maintenant.
Et qu'il y a l'Eurostar, les tableaux sont donc venus à Marseille cet été. Donc 58 tableaux impressionnistes et réalistes, comme je disais, donc des tableaux 19e français, venus spécialement de Glasgow. Et c'était des œuvres, puisque ce collectionneur était un peu boulimique, il avait un peu de tout chez lui, aussi bien des tapisseries du Moyen-Âge que de l'art oriental. Donc une énorme collection donnée à la ville, et que là on met en parallèle avec les collections municipal de Marseille. Et là où c'est amusant, c'est que ça matche complètement. En fait, il y avait deux goûts assez similaires à Marseille et à Glasgow. Et donc, l'exposition tourne autour de ça.
Et quels sont les grands noms qui figurent dans cette
collection? Alors, bon, ça commence avec Gustave Courbet, bien évidemment, le grand réaliste par excellence, des paysages, des portraits. Un Marseillais qu'on a un peu oublié, qui est Honoré Daumier, le fameux caricaturiste.
Bien sûr.
Et là, c'est amusant, puisqu'il y a des dessins dans la collection Burrell, mais la collection Cantini, donc à Marseille, a la série des têtes de parlementaires, vous savez, en train de grimacer avec quelque chose de très caricatural et politique. Donc en fait, là aussi, ça dialogue parfaitement bien dans deux espaces séparés. François Bonvin, par exemple, qui est un artiste moins connu, mais il y a aussi Cézanne, il y a Sisley, enfin il y a tous les grands noms de la peinture française
19e. C'est incroyable, pendant que vous parlez, Clémentine Célarière regarde sur son portable pour savoir...
Mais oui, mais parce que je déteste le portable. Mais pour la peinture, pour l'art, ça m'intéresse vraiment.
Et alors, puisqu'on en était tout à l'heure aux anecdotes, parce que quand même ce collectionneur était absolument fou. Donc, commerce maritime, il interdit que ses œuvres partent en bateau. Et autre chose, il était obsédé par la pollution. Et il a demandé à ce que sa collection soit installée à 26 km du centre-ville pour éviter la pollution de la ville de Glasgow.
Il n'est pas tort, hein, franchement.
Alors,
les moments forts dans l'exposition.
Alors, moments forts, il y a de très beaux passages. Il y a entre autres une salle consacrée à la nature morte. Et là, c'est fabuleux puisqu'on voit aussi bien un bouquet de chrysanthèmes de Fontaine-la-Tour qui vient dialoguer avec des roses de Manet absolument extraordinaires. On voit deux petites roses dans un verre transparent, peint mais avec une matière exceptionnelle. Et puis le grand chef-d'œuvre de la collection, qui est le jambon d'Édouard Manet, qui vient de là, qui est présenté dans l'exposition. Et puis alors,
et puis sur l'affiche,
une œuvre vraiment importante, qui est la répétition d'Edgar Degas. Il y a plusieurs Degas qui clôturent l'exposition. Et justement, cette affiche est amusante puisque vous en parlez, parce qu'en fait, le sujet du tableau de Degas, c'est le vide. Il y a un grand escalier hélicoïdal sur le côté où on voit les danseuses en train de descendre. Enfin, on n'en voit plus que les jambes en train de descendre. Le reste, ce sont la répétition où on les voit sur le côté, mais le centre du tableau, c'est le vide. Alors, comment faire une affiche avec du vide? Très compliqué, il faut aller à Marseille pour ça. Et regardez surtout le dernier tableau, qui est juste génial, qui est un autre tableau de Degas, où on voit le portrait d'une femme en train de regarder, vous qui êtes en face, à travers des jumelles de course. Et on voit juste un visage avec des jumelles de course, et en fait... on est l'objet de l'admiration.
Je vais l'attaquer, c'est pas possible, elle n'a pas le droit de regarder. Clémentine, une dernière question.
Je voulais juste conseiller une expo que vous avez vue, Kupka au Grand Palais.
Sublime, on en a déjà parlé ici.
On en a parlé.
Pour moi, c'est la plus belle exposition du printemps à Paris.
Eh ben, nous sommes d'accord, tous les trois. Merci Clémentine Célarier, merci Alain Genestard, merci Elodie Fondacci, merci Guy Boyer. C'est la fin de ce 19h20 réalisé par Bertrand Dorigny. Dans un instant, Florence Belkacem pour Une certaine idée de la France. Et puis à 20h, le journal du classique de Laure Maison. Très bonne soirée à tous. Radio.